Ok, donc imaginez, vous avez 5 minutes pour expliquer l'évangile. Quels sont les éléments que vous avez inclus dans votre présentation? Est-ce qu'on pourrait faire un petit recensement des éléments que vous avez inclus?
Dieu.
Je vous écoute.
C'est
C'est un bon départ, n'est-ce pas?
Dieu.
Quoi d'autre? Quels sont les autres éléments que vous avez inclus dans votre présentation de l'évangile à quelqu'un qui apparemment ne connaît pas grand-chose?
Mort, la séparation de Dieu.
Pardon, là?
La mort, séparation de Dieu.
Mort, séparation de Dieu. Ouais.
Mort, séparation de Dieu. L'évidence du péché.
Ouais.
Évidence du péché. Merci.
Ouais, je vous écoute, hein. Je marque comme ça on pourra.
La justice de Dieu.
Ouais, donc la justice de Dieu.
La sainteté de Dieu.
Sainteté de Dieu, ouais, merci Jonas. Ouais, merci.
Révélation par la Bible.
Révélation, c'est Judson, j'ai reconnu ça.
Par la Bible.
Ouais. Révélation de Dieu par la Bible. Ok. Par la Bible.
La croix.
La croix, un élément assez important
en tant que chrétien, la croix.
Quoi d'autre?
La foi.
Hmm?
La foi.
La foi, ouais. Quoi d'autre?
La repentance.
Repentance.
Ouais, la croix.
Ouais. Moi, je peux la mettre par... Tout ça, c'est les éléments un peu que vous avez inclus dans votre présentation. Ouais, repentance.
Éternité.
Éternité.
Ouais. Rachat, pardon.
Rachat. Pardon. J'ai mis évidence du péché. C'est pas vraiment par. Il n'y a pas d'ordre. Hein. C'est juste. Je fais ce que vous me dites. Du péché. Ouais, Margaret veut dire quelque chose peut-être, non? Ou Pascal? Non. Ok. Mort. Séparation de Dieu.
La paix.
Ouais, séparation de Dieu. J'ai bien entendu la paix. La paix, absolument. Quoi d'autre?
D'autres choses?
Résurrection, c'est important. Résurrection.
Ouais, merci, Jonathan. La résurrection. D'autres éléments? Vous avez plus nos représentations?
La création aussi.
Ouais, la création, merci. Ouais, création. Des éléments à inclure. C'est déjà pas mal. D'autres choses à inclure, non?
Oui, la vie nouvelle.
Vie nouvelle, ouais, d'accord. Ok.
La vie nouvelle.
Ok, parfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait beaucoup de choses, hein. Et le but un peu de notre séance aujourd'hui va essayer de clarifier les concepts et de synthétiser tout ça en fait en une présentation assez simple et claire de l'évangile. Alors c'est une méthode qui a ses avantages et ses inconvénients comme toutes les méthodes, hein. C'est une méthode qui a pour but de présenter l'évangile de manière écrite, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un stylo et d'un bout de papier. Je me rappelle que j'ai fait ce qu'on va faire sur une nappe dans un restaurant, c'est très pratique. J'ai fait ça sur un bout de papier qu'un ami a d'ailleurs gardé depuis 2001. Mais c'est une méthode qui a aussi des inconvénients, parce que c'est pas tout le monde qui a un bout de papier et un stylo à disposition, d'accord? Mais quand même, c'est une méthode qui a ses avantages. Je pense qu'elle est claire, je pense qu'elle a le mérite de clarifier les concepts, de synthétiser ce qu'on croit et de nous aider à expliquer ce qu'on nous croyons sans, comment dire, patois de Canaan. Vous voyez ce que je veux dire, sans jargon biblique, genre j'ai été racheté par le sang de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Et là, on vous regarde et on vous dit à plus quand même. Okay. Donc, je vous distribue ces feuilles pour que vous puissiez prendre des notes si vous le désirez.
Bien,
merci beaucoup. Ouais, je pense qu'il y en a suffisamment. Jonas a fait suffisamment de photocopies. Merci encore. Donc deux parties dans cette séance. Dans un premier temps, je vais essayer de vous exposer la méthode en elle-même qui s'appelle deux façons de vivre. Et dans un deuxième temps, en fait, nous essaierons de répondre à des questions ou à des objections qui sont posées pour chaque étape. Et ça rentre ainsi dans le cadre de l'apologétique, de la défense en fait, de la foi chrétienne, dans la défense de l'espérance qui est la nôtre. Alors, la méthode, je vous l'ai dit, hein. Et le but, c'est ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, c'est de l'apprendre par cœur. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Tout commence donc, je ne sais pas par où vous avez commencé quand vous avez expliqué l'évangile, tout commence en fait par la création, d'accord ? Par un Dieu que nous pouvons représenter sous la forme de cette couronne, qui a créé le monde et qui a créé les hommes par amour. Et Dieu nous a confié en fait la responsabilité de l'univers, mais sous son autorité. D'accord ? Et pour ça, il y a un verset, Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire Apocalypse, chapitre 4, verset 11, s'il vous plaît ? Apocalypse, chapitre 4, verset 11.
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
Merci. C'est par la volonté de Dieu que le monde a été créé, et c'est par sa volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Première étape. Deuxième étape, qu'en est-il aujourd'hui, à l'heure où nous vivons ? Ce qui s'est passé en fait... Et vous allez, je pense, tout de suite comprendre ce qui s'est passé, c'est que l'homme a décidé de rejeter l'autorité de Dieu, d'accord, en tant que créateur, et qu'il a décidé d'être le propre Dieu de sa propre vie. Autrement dit, Dieu, tu n'es plus Dieu, je décide que tu n'es plus Dieu, c'est moi qui suis le propre Dieu de ma propre vie. D'accord ? Et là, il y a un verset qui explique un peu cette image, c'est le Romains, chapitre 3, versets 10 à 12. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire Romains, chapitre 3 ? Merci, Jonas.
Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
Merci. Tous les hommes ont rejeté l'autorité de Dieu. Dieu lui-même essaye de mener leur propre vie, mais sans Dieu. Et le résultat, c'est que nous n'arrivons pas à maîtriser ni le monde, ni nos propres vies. La question qui se pose à partir de ce moment-là, c'est comment est-ce que Dieu va réagir au rejet de son autorité ? Eh bien, c'est la troisième étape. La réaction de Dieu face à une... hostilité, pareil, face au rejet de son autorité, c'est en fait son jugement qui se matérialise par la mort. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire Hébreux, chapitre 9, verset 27 ? Hébreux, chapitre 9, verset 27. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Un seul verset. Pas très long.
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
Donc voilà le jugement de Dieu. Il est réservé de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La justice de Dieu semble très sévère, n'est-ce pas ? Mais en fait, Dieu a offert une solution pour régler ce problème. Et cette solution, en fait, c'est celle que Jésus a apporté sur la croix. Donc Dieu s'est envoyé lui-même quelque part dans la personne de son fils. Jésus, il a toujours vécu sous l'autorité de son père et il a subi à notre place le châtiment, la punition que nous méritions. Et là, il y a un verset 1 Pierre, chapitre 3 et verset 18. Si quelqu'un souhaite nous le lire. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. 1 Pierre 3, 18.
C'est involontaire ?
une volontrice.
Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit.
Merci, merci beaucoup, Bruno. Donc Jésus a été mort, a été crucifié à notre place, d'accord, pour nous permettre d'être en relation avec lui, pour nous amener à Dieu. C'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes qui a subi à notre place le jugement que nous méritions pour nous permettre d'être en relation avec Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque la Bible dit que Jésus, 3 jours après sa mort, est ressuscité, revenu d'entre les morts. Il a vaincu la mort et c'est lui qui peut nous apporter en fait une vie nouvelle, et c'est lui qui reviendra pour juger le monde. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire 1 Pierre chapitre 1 verset 3. 1 Pierre, vous avez toutes les références notamment sur vos sur les feuilles qui vous ont été distribuées.
Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir.
Ouais. Merci beaucoup. Finalement, quelle est l'issue? Ben, en fait, il y a deux possibilités. Deux façons de vivre, d'où le titre un peu de cette formation. Soit, en fait, se repentir, c'est-à-dire accepter de demander pardon à Dieu pour ses péchés et croire, placer sa confiance en lui. On peut représenter peut-être ça comme ça. Soit décider de, en fait, mener sa propre vie en rejetant l'autorité de Dieu, en restant le propre Dieu, sa propre vie, et en subissant les conséquences. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire Jean chapitre 3, verset 36? Jean chapitre 3, verset 36. Jean chapitre 3, verset 36.
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui.
Merci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, est en relation avec Dieu. Celui qui ne... Il est donc pardonné de ses péchés et reçoit gratuitement la vie éternelle, qui n'est pas méritée, mais qui est simplement reçue, acceptée par la foi. Celui qui ne croit pas subit les conséquences de sa décision, hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas pardonné, il ne reçoit pas cette vie. La question qui se pose, c'est de quelle façon est-ce que vous voulez vivre. Et là, votre présentation se termine en gros 5 minutes. Est-ce que vous avez déjà entendu cette présentation avant? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Vous avez déjà entendu? Non? Ok.
Non.
D'accord. C'est un concept qui est né en Australie il y a quelques années, qui a été traduit en français. Et il existe des petits livrets. Je peux vous envoyer un exemplaire en fait par internet si ça vous intéresse. Donc si ça vous intéresse, pour l'avoir, n'hésitez surtout pas. C'est gratuit et je vous l'envoie avec grand plaisir par internet. Il y a vraiment beaucoup de choses très pratiques, notamment la fin que dois-je faire, et puis une prière pour ceux qui sont vraiment intéressés. Donc ce que j'aimerais faire maintenant, c'est essayer de revenir sur ces 6 étapes assez rapidement, et puis de terminer en essayant de répondre à certaines objections qui peuvent être posées à chaque étape. La création, le péché, le jugement qui a pour conséquence la mort, la mort de Jésus, sa résurrection et le choix que les hommes doivent faire. C'est clair jusque-là ? Ok, donc première étape, la création, c'est Dieu qui a créé le monde. En fait, la création du monde n'était pas du tout une nécessité. Dieu n'avait pas besoin de nous créer. Dans la relation d'amour entre les personnes de la Trinité, Dieu se suffisait à lui-même. Et je vous invite à lire le livre de Jonas, peut-être, pour en savoir plus à ce sujet. Dieu se suffisait à lui-même. Il n'avait pas besoin de créer quelqu'un pour aimer. Il y avait déjà une relation d'amour entre les personnes de la Trinité, en fait. D'accord ? Parfois on dit que Dieu avait besoin de créer absolument pour aimer quelqu'un. Non, Dieu, il y avait déjà de l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu n'a pas créé par nécessité du tout. En fait, Dieu aurait très bien pu ne pas nous créer. Il aurait très bien pu se passer de nous. Il était en relation avec lui-même, mais il a décidé de le faire par pur amour et par pure grâce. C'est une décision totalement libre de sa part. C'est le fruit de sa volonté. Et je pense que c'est vraiment ce que nous apprenons dans Apocalypse, hein, chapitre 4, verset 11, qu'on peut peut-être relire ensemble. Apocalypse, chapitre 4, verset 11, un verset que je peux vous relire. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, d'accord ? Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Vous voyez comment, selon ce verset, la création est le fruit de la volonté de Dieu. Il a voulu créer les hommes et le monde. D'accord ? Dans ce verset, nous apprenons que Dieu a créé toutes choses et que toutes choses existent par sa volonté. Ce qui a fait dire à certains théologiens que Dieu est à la fois transcendant et immanent. Transcendant, il est plus grand que sa création. C'est normal, en tant que créateur, le créateur est nécessairement plus grand que sa création. Mais aussi immanent, c'est-à-dire toujours impliqué dans sa création, qui est à la fois distincte et dépendant du créateur. Et pour révéler un peu l'immanence de Dieu, le fait qu'il soit toujours impliqué dans sa création, je pense à Hébreux chapitre 3, chapitre 1 verset 3 par exemple, où l'auteur dit que c'est Dieu qui soutient l'univers par sa parole puissante. Dieu n'a pas créé puis s'est retiré. Il a créé, il est toujours impliqué dans sa création qui est à la fois distincte de son créateur. Nous ne sommes pas panthéistes, on ne croit pas que Dieu s'est révélé, enfin est dans la création, mais il est à la fois distinct et dépendant de son créateur. La création dépend de lui, et cette création est aussi dépendante de lui. C'est donc Dieu qui a créé le monde, qui le dirige avec amour et qui nous l'a confié sous son autorité. Simplement, Dieu est Dieu créateur, l'homme est l'homme créature, et Dieu a confié à l'homme certaines responsabilités. Il a fait à son image. Certains pensent que, en fait, la création à l'image de Dieu implique certaines responsabilités au sein de la création, mais tout ça existe sous l'autorité de Dieu. Première étape. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, il suffit d'ouvrir les journaux, d'allumer son ordinateur, de regarder le JT de France 2 ou BFM TV pour se rendre compte que le monde va mal. Et la question est, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la Bible explique qu'en fait, l'homme a décidé de rejeter l'autorité du Créateur, et c'est ce que la Bible appelle le péché. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais comment parler du péché en des termes simples ? Plusieurs pistes de réflexion. On peut parler de rébellion, on peut parler de désobéissance, on peut parler de rejet de l'autorité de Dieu. C'est un moyen de le faire. On peut aussi parler au sens strict du terme de non-conformité à la loi de Dieu. On peut aussi dire, pour parler de manière un peu plus prosaïque, le fait de vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est-à-dire de vivre en proclamant notre autonomie, notre indépendance morale vis-à-vis de Dieu. Et j'insiste sur l'indépendance morale, parce que je ne pense pas qu'il soit possible de proclamer son autonomie existentielle de Dieu. En tant que créature, nous sommes inévitablement liés à notre Créateur. Nous ne pouvons pas nous dissocier de notre statut créaturel. D'accord ? C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le péché consiste en la proclamation de son indépendance, mais morale, on peut très bien décider de vivre, d'accord ? Indépendamment de la volonté morale de Dieu. C'est tout à fait possible. Il est impossible, en revanche, d'un point de vue chrétien, de vivre, de proclamer son indépendance existentielle en parlant philosophie, d'ontologie, tout ce qui relève de l'être. On ne peut pas. Nous sommes des créatures qui dépendons de notre Créateur. En revanche, il est tout à fait possible de proclamer son indépendance morale, qui consiste en fait à décider nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et il me semble que ce qui est au cœur au cœur de ce que la Bible appelle le péché, décider soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est à mon sens ce qui se cache, si j'ose dire, derrière l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le livre de la Genèse. Hein. Le fait de décider soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'est-ce que l'homme fait en décidant de manger du fruit ? C'est qu'il décide de décider soi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Ce n'est pas Dieu qui doit me dire ce qui est bien, ce qui est mal. C'est moi, le propre Dieu de ma propre vie, qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. C'est moi qui fixe les règles. Il me semble que c'est là le cœur, l'essence du péché. Décider nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Mais force est de constater que la tentative de gérer nos vies selon ce principe, de gérer non seulement nos vies mais le monde indépendamment de notre Créateur sur le plan moral, est un échec. D'où hein, ce que dit l'apôtre Paul dans le livre aux Romains, au chapitre 3, au verset 10 à 12, un passage que je vous relis. Là, Paul est en train de citer un peu un florilège de psaumes. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Je continue. Tous se sont égarés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'en est pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous les lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est un portrait peu glorieux que l'apôtre Paul dépeint de l'humanité. Et vraiment, ces versets sont très révélateurs de ce que la tradition augustinienne calviniste, en fait, appelle la dépravité totale. Vous connaissez peut-être les 5 points du calvinisme, hein, qu'on a formalisé sous l'acronyme TULIP en anglais. Donc, total depravation, la dépravité totale. Le U, unconditional election, élection inconditionnelle, on ne va pas y revenir. Le L, limited atonement, ce qu'on appelle l'expiation définie, le fait que Jésus soit mort uniquement pour ceux qui croient en lui. Le I, irresistible grace, c'est-à-dire la grâce qui est irrésistible, le fait qu'un croyant peut un temps résister à l'appel de Dieu, mais qu'il va inévitablement capituler, et le P, perseverance of the saints, la persévérance des saints, en fait, qui est la persévérance de Dieu, d'accord, pour permettre à ses enfants de croire en lui. Et le premier point de TULIP, total depravation, qu'on peut traduire peut-être par la dépravité totale, est à mon avis illustré à merveille dans ces versets. Hein. C'est pas tant que le péché a atteint l'homme, comment dire, intensivement, c'est-à-dire que l'homme n'a pas été atteint aussi intensément qu'il aurait pu l'être, sinon le monde dans lequel nous vivons serait un enfer. C'est que l'homme a été atteint dans son être extensivement, dans tous les domaines de son être. Et à mon avis, c'est un passage qui révèle cette atteinte, vous voyez ce que je veux dire, extensive, qui n'est pas aussi aussi intense qu'elle pourrait l'être, mais qu'elle est extensive, qu'elle touche tout le domaine de son être. Et le premier domaine, je pense qu'il est au verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche de tout part dans les pensées. L'homme est atteint dans sa raison, dans son intelligence, qui ne cherche pas Dieu naturellement. Et quelles sont les conséquences ? Eh bien, regardez à partir du verset 12, en fait. Comment est-ce que cette intelligence pervertie va se manifester ? Au verset 12 notamment. Dans ce qu'on fait, regardez le verset 12. Tous se sont égarés ensemble, ils se sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien. Vous voyez comment le péché qui nous atteint dans le domaine de notre être a eu des conséquences dans ce que nous faisons. Et puis verset 13. Le péché nous a atteint aussi. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils usent de tromperie avec leur langue. Dans la façon dont nous parlons, vous voyez comment le péché a atteint l'homme extensivement dans tous les domaines de son être, l'intelligence, la parole, les actes. Le péché. Il me semble que ce verset met aussi en évidence le caractère utopique ou illusoire de ce qu'on appelle aussi l'humanisme, selon lequel l'homme naturellement bon sera corrompu par la société. Vous avez déjà entendu cet argument. L'homme est bon fondamentalement. Le problème, c'est que la société, en fait, le corrompt. La société dans laquelle il vit le système est à blâmer. Ce n'est pas l'homme en lui-même qui est à blâmer. C'est le système, la société dans laquelle il vit. Il me semble que ces versets révèlent que le problème n'est pas du tout à l'extérieur de l'homme, mais à l'intérieur. Le problème, ce n'est pas le système, mais c'est l'homme. C'est le système qui est à... Ce n'est pas le système, mais c'est l'homme qui est à blâmer. Un prédicateur britannique l'a dit ainsi, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Le cœur du problème de l'homme, c'est le problème du cœur. Le cœur étant l'organe de la volonté dans la Bible. L'homme, naturellement, ne veut pas entendre parler de Dieu. Nul ne le cherche. Nul n'est intelligent. Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. L'autre problème, c'est comment est-ce que Dieu va réagir face à une telle hostilité? On est à la troisième étape. Eh bien, nous croyons que le Dieu de la Bible est un Dieu plein d'amour. Je suis le premier à le dire, mais nous croyons aussi que l'une des facettes de la même pièce, c'est que Dieu est juste, fondamentalement juste. Si Dieu n'est pas juste, Dieu n'est pas Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Et qu'il ne laisse pas le péché indéfiniment impuni. La conséquence du péché, le salaire, c'est la mort et le jugement. Le fait d'être séparé de Dieu pour l'éternité, on pourrait peut-être mettre un trait là. Le fait d'être séparé de lui pour l'éternité. D'où ce verset dans l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 9 verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Autrement dit, pas de purgatoire. C'est nulle part dans la Bible. C'est une doctrine qui est tirée du deuxième livre des Maccabées. Un livre qui n'a pas été du tout reconnu par les Juifs de l'époque. Pas de réincarnation non plus. Pas de paradis pour tous. Michel Polnareff. On est de la même génération, je suis rassuré. Quand je cite cet exemple, personne ne réagit. Hein. Ça va, je me sens un peu plus à l'aise. On ira tous au paradis. Même moi. Pas de purgatoire, pas de réincarnation, pas de paradis pour tous, mais le juste jugement de Dieu contre une humanité rebelle. Nous méritons tous, je mérite. Je ne mérite pas d'être sauvé, à la base. Je mérite d'aller en enfer. Ça, c'est la réalité, quoi. C'est ce que je mérite. Ça serait parfaitement juste, en fait. Inutile de vous dire que le jugement de Dieu est donc une doctrine politiquement très incorrecte de nos jours. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas être jugés. Mais dans une certaine ironie, nous sommes quand même les premiers à revendiquer l'application de la justice pour les autres. Que les autres soient jugés et aillent en enfer. Ah oui, c'est normal. Celui qui m'a volé 200 euros de Leningrad l'année dernière, on m'a volé 200 euros par Internet. Il mérite d'être jugé et d'aller en enfer. Moi, attends, c'est déjà une autre histoire, quoi. Vous voyez combien nous sommes beaucoup plus prompts à revendiquer l'application de la justice pour les autres avant de penser à l'appliquer avant tout. Pour soi-même, que les autres soient jugés. Pas de problème. Que moi je sois jugé, ça pose déjà un peu plus de problèmes. Ce jugement est très sévère, certaines personnes vont dire, la justice de Dieu semble implacable, c'est vrai, mais l'histoire ne s'arrête pas là. D'accord ? Et c'est donc la quatrième étape, hein, si vous m'avez suivi, on est donc ici, la mort de Jésus. Dieu est un Dieu juste, mais c'est un Dieu plein d'amour. Plein d'amour qui s'est envoyé lui-même dans la personne de son fils. Je pense que c'est important à dire parce qu'on a parfois tendance à penser que c'est une tierce personne qui s'est offerte. Et c'est ce qui fait d'ailleurs dire à certains théologiens que Dieu le Père a commis une sorte de cosmic child abuse en anglais. Je ne sais pas comment traduire ça. Une sorte d'abus d'enfant céleste. Comme si Dieu avait envoyé une autre personne quelque part à la boucherie. Personnellement, je ne pense pas que cela corresponde à ce que dit la Bible. C'est Dieu qui s'est réconcilié lui-même avec le monde. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Dieu s'est réconcilié lui-même avec le monde. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus, ce n'est pas simplement une tierce personne qui est venue, c'est Dieu en personne. Pleinement Dieu, mais Dieu en personne, qui est venu pour payer à notre place le prix de nos péchés, en acceptant volontairement de mourir pour nous à notre place, Jésus vient a subi le juste châtiment que nous méritions pour notre rébellion. Il nous apporte ainsi le pardon. Et c'est ce qui fait dire à Pierre, ceci, hein, 1 Pierre chapitre 3, verset 18. C'est un peu l'équivalent de Jean 3, 16 dans les Épîtres. Hein. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Là, on est vraiment au cœur de l'évangile. Et j'aimerais juste m'attarder quelques minutes sur ce cœur de l'évangile. La première chose que nous apprenons dans ce verset, c'est que Christ a souffert. Et c'est ce qui était annoncé dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Je vous renvoie à ce que Jésus a dit à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, hein, Luc 24, 46. Tout cela, les souffrances de Christ, notamment, est arrivé conformément aux Écritures. Le Christ devait souffrir. C'est ce que Dieu avait prévu, établi d'avance, peut-être même avant la création du monde. L'Apocalypse dit que Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Dieu avait déjà prévu la mort, les souffrances, la mort de Jésus avant même la création. Christ a souffert. Mais Christ a souffert et il est juste, et en tant que juste, il a souffert pour les péchés des injustes. Encore une fois, hein, c'est ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament. Hein. Qu'est-ce que prévoit la loi de Moïse, par exemple, dans l'Ancien Testament? Vous vous rappelez? Elle prévoyait que les péchés du peuple pouvaient être pardonnés. Comment? Vous vous rappelez? En Lévitique 16, notamment. Ou même dans le reste de la loi. Hein. Comment est-ce que les péchés du peuple pouvaient être pardonnés? Par quel système? Des sacrifices. Absolument, ouais. Ouais, ouais. Les péchés du peuple pouvaient être pardonnés en étant littéralement transférés sur un agneau, vous vous rappelez, sans défaut, une victime parfaitement innocente. D'accord? Et cet agneau, sans défaut, que le Lévitique, au chapitre 16, appelle un bouc émissaire, ça vient de là d'ailleurs. Émissaire parce qu'il est envoyé dans le désert. Cette victime parfaitement innocente, en fait, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, exactement. Ouais. Non pas une simple créature, hein, victime d'un Dieu tyrannique, mais Dieu en personne. Ce qui s'est passé, j'ai mis utiliser cette illustration, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est comme si, imaginez que ma main me représente, d'accord, et que Dieu est représenté par l'espace infini, d'accord. Imaginez que ce livre qui est la Bible représente mon péché. Alors, le parallèle s'arrête là, d'accord. Ok. Mon péché m'empêche d'entrer en relation avec mon Créateur, d'accord? Mon péché est trop lourd à porter, j'ai contracté une dette trop importante aux yeux de Dieu, et je ne suis pas en mesure d'être en relation avec mon Créateur. Mon péché me sépare de mon Créateur. Qu'est-ce que Jésus va faire? En fait, il s'est opéré un transfert de culpabilité extraordinaire. L'inverse. C'est que Jésus a pris sur lui, en fait, la culpabilité, le péché qui était le mien, pour que je sois en relation avec Dieu, pour que lui soit considéré comme coupable, mort à ma place, qu'il puisse prendre sur lui le poids de mon péché, de ma culpabilité. C'est exactement ce qui s'est passé, en fait, sur la croix. Il me semble que c'est le cœur de l'évangile. En fait, sur cette croix, nous assistons à l'auto-satisfaction de Dieu par l'auto-substitution de Dieu. Alors, auto-satisfaction de Dieu par auto-substitution de Dieu. Je pense que c'est vraiment un concept clé. Hein. L'auto-substitution, ça revient à dire ce que nous disions un peu plus tôt, ce n'est pas une tierce personne qui a accepté de souffrir et de mourir à notre place, mais c'est Dieu lui-même. C'est vraiment fondamental. Jésus a toujours été maître de son destin. Il n'a pas été victime, il a toujours été maître de son destin. Il aurait pu appeler une cohorte d'anges à sa rescousse. Il a choisi délibérément de ne pas le faire. Sa conscience messianique l'a poussé, d'accord, à obéir à la volonté du Père, à laquelle il s'est parfaitement soumise, d'accord. Ce n'est pas une tierce personne qui accepte de souffrir et de mourir pour nous, mais c'est Dieu lui-même, qui dans la personne de Jésus agit sur lui-même et nous réconcilie avec lui-même. Je vous renvoie à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est extraordinaire. Auto-substitution. Auto-satisfaction de Dieu. Le Père est pleinement satisfait par la mort du Fils. On appelle ça la propitiation, en fait. Pourquoi propitiation? Ça vient du mot propice. Hein. Dieu est rendu propice, favorable. Et quel est l'événement dans l'Ancien Testament qui illustre un petit peu cette propitiation? l'événement par excellence. Qu'est-ce qui rend Dieu propice dans le livre de l'Exode, par exemple? Est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce qui va rendre Dieu propice, favorable? Je pense que c'est la Pâque. Vous vous rappelez? Exactement. Qu'est-ce que Dieu va annoncer son jugement? Une plaie d'Égypte. Il va passer au-dessus. C'est d'ailleurs c'est de là que vient le mot Pâque. En anglais, to pass over. Il va passer au-dessus du peuple. Exécuter son jugement sur les premiers-nés, sauf sur ceux qui habitent dans des maisons, dont les portes ont été badigeonnées du sang de qui ou de quoi? Vous vous rappelez? D'un agneau, exactement. Donc Dieu va voir le sang et à la vue du sang, il va passer. Ces personnes-là vont être épargnées par le jugement de Dieu qui va voir le sang qui a coulé. Je pense que c'est ce qu'on appelle la propitiation, c'est ce qui rend Dieu propice. Et si je vous demande la différence entre la propitiation et entre la propitiation et l'expiation, qu'est-ce que vous me répondez? C'est pas facile, c'est Alex qui m'a un peu mis sur la voie, je pense, hein. Mais je pense que la propitiation, c'est vraiment une piste de réflexion, hein. La propitiation met l'accent sur Dieu, à mon avis, dont la colère doit être satisfaite, rendue propice. La propitiation met l'accent sur Dieu, dont la colère doit être satisfaite, d'accord, par la mort d'un agneau sans défaut. Okay. Et il me semble que l'expiation met l'accent sur l'homme, dont la faute doit être enlevée. C'est-à-dire que vient, à mon avis, comme ça qu'on pourrait traduire peut-être expier, enlever ou couvrir. Et il me semble que la différence, elle se situe à ce niveau-là. L'expiation met l'accent sur l'homme, dont la faute doit être expiée, enlevée. L'appropriation, à mon avis, met l'accent sur Dieu, dont la colère doit être satisfaite, apaisée, rendue propice. Sur la croix, c'est l'autosatisfaction de Dieu, lui est pleinement satisfait par l'autosubstitution de Dieu, par le fait que Dieu se soit lui-même offert en sacrifice. Et le résultat, eh bien, c'est que Jésus, en fait, nous amène à Dieu, nous permet de rétablir la relation avec Dieu. En fait, les souffrances et la mort de Christ sont pleinement suffisantes pour nous amener à Dieu. Il y a quelques années, une pub pour Maxwell Qualité Filtre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah, j'en souviens toujours. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Genre, vous pouvez mettre une seule cuillère de café dans votre tasse. Ça suffit. Inutile d'en rajouter. Je pense que c'est pareil avec Jésus. Inutile d'en rajouter. Ses souffrances, sa mort sont pleinement suffisantes. Et c'est ce que révèle l'Épître aux Hébreux. Pour nous amener à Dieu. Pour nous libérer de la condamnation de la loi qui punit justement le péché, pour nous permettre d'être en règle avec Dieu, d'être déclaré parfaitement juste et innocent devant lui. Sur la croix, Jésus a tout accompli, hein. C'est d'ailleurs l'une de ses 7 dernières paroles. Il a tout accompli une bonne fois pour toutes. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà été condamné à notre place. Quelqu'un d'autre a payé le prix. Ma marraine a un jour dîné dans un grand restaurant près de chez moi, et elle avait invité beaucoup de monde, et le patron lui a amené la note à la fin du repas. Et sur sa note, vous savez ce qu'il avait écrit? 0 €. Il demande pourquoi? C'est moi qui paye. Jésus a tout payé. Nous n'avons rien à payer. Il a payé la dette. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Dans la mesure où Jésus a subi cette condamnation à notre place. C'est le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, hein. C'est la 5e étape, la mort, puis la résurrection de Jésus qui règne aujourd'hui sur le monde. Jésus, comme on l'a dit, a vaincu la mort. Il reviendra une seconde et une dernière fois pour juger le monde. Et c'est ce que dit plusieurs passages, hein. 1 Corinthiens 15 notamment, et 1 Pierre 3, le passage que nous avons lu ensemble, 1 Pierre chapitre 1, verset 3 que je vous lis. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Alors, les implications de la résurrection de Jésus sont nombreuses et fondamentales. Nous pourrions lire 1 Corinthiens 15, nous n'allons pas le faire, mais la résurrection prouve d'une part qu'il y a une vie après la mort. Elle prouve que Dieu, le Père, a accepté, validé la mort du Fils et garanti aux croyants sa justification. Romains chapitre 4, verset 25, si Jésus n'était pas ressuscité, c'est un peu comme si un prisonnier acquitté était toujours en prison. Il a besoin d'être libéré de prison, de la mort. Jésus en ressuscite, nous libère de la prison, de la mort. Et puis la résurrection de Jésus offre aux croyants sa propre résurrection. Tout ça, je vous renvoie à 1 Corinthiens, au 15e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Et la dernière étape, finalement, le choix, la décision, c'est ce que nous avons vu dans un dernier temps, ce que la Bible appelle la repentance et la foi. Deux façons de vivre, on aurait peut-être pu parler de trois façons de vivre, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a trois façons de vivre, en fait. Mais j'ai voulu appeler quand même ça deux façons de vivre pour respecter ceux qui ont mis au point cette petite présentation. Je pense que la première façon de vivre, c'est ce qu'on appelle l'irréligion. L'irréligion qui consiste à vivre en rejetant l'autorité de Dieu et dont les conséquences éternelles sont terribles. La juste condamnation de Dieu pour nos péchés. La mort et le jugement, le fait d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Il me semble que c'est la première façon de vivre. Vivre sans Dieu sur le plan moral, en décidant nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. D'accord ? Vous avez peut-être des amis qui vivent de cette manière. Mon père, je pense, vit de cette manière. D'accord ? Il n'a pas besoin de Dieu pour lui dire ce qui est bien et ce qui est mal. Il est assez grand pour décider lui-même ce qui est bien et ce qui n'est mal. Proclamation de son indépendance, de son autonomie morale vis-à-vis de Dieu. Les conséquences sont terribles. La juste condamnation de Dieu. La séparation pour l'éternité. La deuxième façon de vivre, elle va peut-être vous surprendre, mais je pense qu'elle est d'actualité, c'est ce qu'on appelle la religion. Qui consiste à faire de bonnes œuvres. À essayer de gagner la faveur de Dieu en espérant qu'il nous acceptera, qu'il nous justifiera, sur la base de ce que nous aurons fait. C'est ce qu'on appelle tout simplement le salut par les œuvres. Et dont les conséquences sont tout aussi terribles que l'irréligion. Et je pense qu'il y a une différence fondamentale entre la religion et l'évangile. La religion, il me semble que c'est l'homme qui essaye de monter jusqu'à Dieu, un peu comme on essaie de monter sur un arbre avec une échelle, vous savez. On essaye de monter à Dieu en essayant de faire ses propres efforts, en espérant que finalement Dieu va nous accepter sur la base de ce que nous avons fait, d'accord ? Il me semble que l'évangile, c'est radicalement l'inverse. C'est Dieu qui descend de l'échelle. C'est Dieu qui devient homme dans la personne de Jésus, pleinement Dieu, pour nous donner ce que nous ne pouvons pas mériter. Et qui nous accepte, qui nous justifie, non pas en vertu de ce que nous avons fait, mais en vertu de ce qu'il a fait. L'évangile. Qui consiste donc à se repentir, à demander pardon à Dieu. C'est plus que ça, il me semble, la repentance. Il s'agit littéralement d'un changement de pensée qui implique un renoncement à une certaine manière de vivre et l'adoption d'un nouveau comportement basé sur la volonté morale de Dieu. Et à placer sa confiance, non pas dans ce que nous faisons pour Dieu, même si c'est très tentant. On vit peut-être dans la société du mérite aujourd'hui, où tout se gagne un peu à la force du poignet. Cette confiance, elle est à placer non pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que Dieu a fait pour nous, dans la mort et la résurrection de Jésus, dont les conséquences éternelles sont magnifiques. Le pardon gratuit. Sa grâce, sa faveur imméritée, la vie éternelle, dans sa présence, avec lui. Voilà donc les deux façons de vivre. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le faire. Moi, je sais que ça a été très utile dans ma vie. Ça m'a permis d'une part de clarifier certains concepts, de mémoriser un certain schéma de l'histoire du salut et de mémoriser certains versets. Il faudrait que je m'y remette un peu aujourd'hui pour les réapprendre par cœur, mais ça m'a aidé personnellement. Et si ça peut aider d'autres personnes à comprendre l'évangile, je ne dis pas l'accepter, bien sûr, prions pour qu'elles l'acceptent, à comprendre l'évangile, je pense que ça peut être aussi très utile. Les gens ont parfois une conception, à mon avis, parfois catholique de l'évangile, il me semble. C'est le cas de Luc Ferry, je pense, notamment, qui dissocie la foi et la raison, qui n'a pas vraiment de conception biblique de l'évangile. Voilà, alors j'ai fini, j'ai dit ce que je tenais à dire. Il nous reste peut-être quelques minutes. Jonas, c'est bon ? En fait, On peut discuter de ce que vous voulez par rapport à ça. Sinon, j'ai pensé à des objections pour chaque point. J'ai pensé qu'on pouvait en discuter, mais sentez-vous vraiment libre si vous voulez discuter d'autres choses. D'abord, est-ce qu'il y a des questions peut-être sur ce que j'ai pu dire ou qu'est-ce que... Ouais.